Docteur Alix de Bonnières, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « La fin de vie apaisée », le sous-titre est « La sédation profonde et continue en question », ouvrage paru aux éditions Teki. Vous aviez également écrit un livre intitulé « Consentir à mourir » aux éditions du Toucan. Avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les auditeurs de Radio Maria ?
Bien sûr, bonjour à tous les auditeurs. Donc, je travaille en soins palliatifs, je suis médecin de soins palliatifs depuis environ 14 ans. Et là, je dirige une unité de soins palliatifs de 40 lits qui est située dans un hôpital parisien, un petit hôpital de 150 lits, et dans le nord-est de Paris, à la porte de Pantin. Voilà, j'ai également, je me suis beaucoup intéressée à l'éthique. Donc, j'ai un master d'éthique spécialisé dans la fin de vie et la maladie incurable. Voilà, donc je viens aujourd'hui pour voilà, parler un petit peu de vous partager mon expérience de soins palliatifs dans cette période un petit peu troublée où on en parle beaucoup sans toujours savoir ce que c'est et dans l'attente peut-être d'une modification législative. Donc juste pour nos auditeurs, je vais rappeler très rapidement la définition des soins palliatifs pour bien repréciser le contexte. Les soins palliatifs, ce sont des soins actifs. Ce ne sont pas des soins passifs, ce n'est pas seulement tenir la main du patient, se tenir auprès de lui. Ce sont des soins actifs qui sont délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une affection grave, évolutive ou terminale. Et l'objectif des soins palliatifs, c'est de soulager toutes les souffrances, aussi bien les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Pour résumer un petit peu, mais je pense que c'est une phrase qui a beaucoup de sens, les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand on croit qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà, c'est aussi un service qui doit vivre, qui redonne de la vie au jour quand on ne peut pas donner de jour à la vie. Voilà, les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s'adressent aux malades en tant que personne, à sa famille et à ses proches, et aussi bien à domicile qu'en institution. La formation et le soutien des soignants et des bénévoles font partie de cette démarche. Il y a une certaine philosophie palliative qui est de considérer le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. C'est pour ça que ceux qui dispensent des soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables. Autrefois, on parlait d'acharnement thérapeutique, maintenant on parle d'obstination déraisonnable. De même que nous nous refusons à provoquer intentionnellement la mort. Nous, notre objectif est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès et de soutenir aussi les proches en deuil. Et puis nous avons aussi les soins palliatifs, une mission de recherche, d'enseignement et de pratique clinique. Comment se déclinent les soins palliatifs en France ? Il y a environ 150 unités de soins palliatifs réparties sur presque tout le territoire. Malheureusement, il reste encore 23 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il y a des équipes mobiles dans presque chaque hôpital. Les équipes mobiles se déplacent de service en service justement pour diffuser la culture palliative, répondre aux interrogations des médecins et elles ont un rôle de formation qui est très important. Il y a aussi dans les hôpitaux des lits identifiés, c'est-à-dire qu'un patient peut être dans un service normal qui le traite et lorsqu'il passe en phase palliative, il va passer dans ce qu'on appelle un lit identifié. Voilà, et là, il bénéficiera de soins palliatifs à l'intérieur même de son service. Et puis, il y a heureusement des soins palliatifs qui se déclinent à domicile, alors soit par l'intermédiaire de réseaux avec des médecins, psychologues, infirmières, ou bien par l'intermédiaire de l'hospitalisation à domicile. Enfin, on n'oubliera pas les bénévoles en soins palliatifs. Ils sont plus de 5000 et ils ont un rôle très, très important. Ils sont répartis en 352 associations. Voilà. Donc je vais vous parler dans un premier temps un petit peu de mon expérience, tout simplement, quotidienne, dans mon service de soins palliatifs, et puis ensuite de l'évolution législative et de celle qui se profile. Voilà. L'unité de soins palliatifs a ouvert en 2009. elle comprend 40 lits. Alors, l'unité de soins palliatifs, c'est un service qui est réservé aux patients en phase palliative et qui présente des situations complexes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas rester à domicile ou dans des services classiques. Nous accueillons essentiellement des patients qui viennent du nord et de l'est de Paris, ainsi que des communes limitrophes du 93. Les pathologies qu'on retrouve, en fait, dans la grande majorité des cas, sont des cancers, des maladies neurologiques dégénératives, des accidents vasculaires cérébraux massifs ou bien des défaillances viscérales terminales telles qu'une insuffisance cardiaque terminale, une insuffisance respiratoire terminale ou une insuffisance rénale. L'âge de nos patients est très variable. Nous accueillons les patients à partir de 18 ans. Nous avons malheureusement parfois des patients très très jeunes. Et puis maintenant, au-delà de 100 ans, ça n'est plus exceptionnel. Le critère d'admission pour rentrer en soins palliatifs, c'est ce qu'on appelle l'arrêt des traitements curatifs. C'est-à-dire que, notamment dans la pathologie des cancers, le patient doit avoir été informé qu'il ne sera plus procédé à des chimiothérapies ou des radiothérapies parce qu'elles entraîneraient des inconvénients bien supérieurs aux bénéfices. Et puis, pour d'autres pathologies, c'est quand elles sont au-delà de toute ressource médicamenteuse ou médicale. Nous accueillons prioritairement les patients qui viennent du domicile, parce qu'on sait combien c'est parfois difficile d'accompagner un patient souffrant à la maison. Et puis, les critères prioritaires sont ensuite l'âge des patients, l'existence d'un problème éthique. C'est-à-dire quand on sait que le patient réclame de façon assez insistante une sédation profonde ou bien une euthanasie, il est un petit peu prioritaire pour rentrer dans notre service parce que nous sommes formés à répondre à ces demandes-là. Voilà. Tous les patients ne sont pas en fin de vie. C'est important de le dire et de le redire. Nous effectuons des séjours pour le contrôle des symptômes. Par exemple, des patients qui présentent un symptôme résistant pour lequel les autres services n'ont pas réussi à le traiter. Le plus souvent, ce sont des douleurs. Et puis, nous faisons aussi des séjours de répit. Par exemple, vous avez un patient qui est à domicile et puis son conjoint fait une chute, se casse quelque chose, et là, pendant 3 semaines, ben, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Ou bien quelqu'un qui vient pour 3 semaines, on nous dit, écoutez, voilà, équilibrez ses douleurs, et après, soit il pourra rentrer à la maison, soit il pourra revenir dans notre service. Donc, il y a environ quand même presque un tiers des patients qui sortent de notre service. L'équipe est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle comprend bien sûr, comme dans tout service, des médecins, des binômes soignants, c'est-à-dire qu'une infirmière travaille toujours avec une aide-soignante, j'emploie le féminin, mais ça peut être bien sûr le masculin, qui travaille par tranche de 12 heures. Hein, donc on a une équipe de jour, une équipe de nuit, on a une cadre infirmière, une kinésithérapeute, une psychologue, une assistante sociale, une secrétaire, une diététicienne, des bénévoles et des aumôniers. Voilà. Quand je vous dis que c'est pluridisciplinaire, ça veut dire que nous échangeons beaucoup, que tout le monde participe au staff et que la parole d'une aide-soignante a autant d'importance que celle du médecin. Je crois que c'est important de le préciser. Donc le dossier médical est bien sûr informatisé. Et les transmissions des médecins, des infirmières et des paramédicaux sont comme ça accessibles à tout le monde. Matin et soir, il y a une transmission orale, d'abord entre l'infirmière de nuit et l'infirmière de jour, et ensuite une transmission avec tous les soignants qui débutent la journée. C'est important dans notre service de savoir comment s'est passée la nuit du malade, s'il a été angoissé, douloureux, ou si au contraire, il a dormi comme un bébé. Une fois par semaine, nous avons un staff pour reconsidérer le projet de chaque patient. Parce qu'il faut savoir qu'en soins palliatifs, le patient a un projet. Il faut qu'il ait un projet. Il est toujours dans la vie. Et c'est important d'en discuter toutes les semaines entre nous. Par exemple, est-ce que ce patient va pouvoir rentrer chez lui? Qu'est-ce qu'il attend? Comment. Voilà, certains. certains patients ont des projets très particuliers. Je me souviens d'un patient qui voulait absolument aller sur la tombe de sa maman. Donc, il était encore relativement autonome. Donc, avec un ami, il était parti à la gare. On lui avait donné une permission et il avait été chercher son billet, sa carte de train. Et puis ensuite, il est parti. Il est allé sur la tombe de sa maman. Et puis, il en a profité. C'était en province. C'était à côté de chez ses frères et sœurs. Donc, il est allé déjeuner chez sa sœur, qu'il n'avait jamais revue. Et puis, après tout ça, quand même... Il était quand même en phase palliative d'une maladie grave. Il a fait une crise d'épilepsie. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital de province. Inutile de vous dire que j'ai reçu un coup de fil du médecin des urgences de cette ville de province qui m'a traité de tous les noms, d'avoir laissé ce patient partir comme ça. Elle l'a remis sur pied, si j'ose dire. Il est revenu dans notre service et il est mort au bout d'une semaine, mais heureux d'avoir pu réaliser ce projet. Voilà, je pourrais vous citer beaucoup de projets comme ça. On a aussi pas mal, dans notre secteur géographique, on a un gros pourcentage de population étrangère. Et il y a des projets de retour au pays. Donc ça met, là, toute l'équipe s'y met, surtout l'assistante sociale, bon, le médecin pour les prescriptions des traitements. Et c'est véritablement un projet pour certains patients. Je vais vous décrire un petit peu l'arrivée d'un malade en soins palliatifs parce que l'accueil du patient, c'est la chose la plus importante. Le patient va toujours se souvenir de son arrivée en soins palliatifs. Pour certains, c'est très brutal, c'est très violent. Se représente le service de soins palliatifs comme un mouroir, alors que finalement, c'est quand même un endroit de vie. Et l'accueil est vraiment fondamental. Donc, quand un patient arrive, on le laisse s'installer dans sa chambre, les brancardiers l'installent. Et ensuite, nous allons aller le rencontrer, d'abord dans un premier temps, tout seul dans sa chambre. Alors, nous, c'est-à-dire le médecin, l'infirmière et l'aide-soignante qui vont le prendre en charge, et la psychologue. Donc là, on va s'asseoir. S'asseoir, ça veut dire prendre une chaise, montrer au patient qu'on va prendre le temps. Et on va discuter avec lui. Donc, on va bien sûr se renseigner un petit peu sur son état civil, entre guillemets, sa situation de famille. Et puis, en général, je lui pose deux questions. Je lui demande quelle est sa maladie. Alors, les réponses sont très variées. Certains me disent, vous le savez bien, puisque de toutes les façons, vous avez bien reçu mon dossier. Je leur dis oui, mais j'aimerais bien que vous me le disiez avec vos propres mots. Et là, les réponses sont très variables. Il y en a qui vous disent, par exemple, oh, oui, j'ai un cancer qui est à tel endroit, j'ai des métastases à d'autres. Et puis, il y en a qui vous disent, je ne sais pas, le médecin ne m'a rien dit. Ce qui est parfois un petit peu étonnant. Donc, ça veut dire que le patient, soit il n'a pas intégré, soit il est un petit peu dans une forme de déni. Mais en tous les cas, on va faire très attention. Parce que si le patient ne prononce pas le mot... entre guillemets, qui tue, on ne va pas le prononcer non plus. Par exemple, un jour, il y a une petite dame qui rentre qui est installée dans sa chambre, et au moment où je rentre, en général, je fais sortir la famille en leur expliquant que je vais d'abord voir le patient tout seul, parce que c'est les mots du patient surtout qui sont très importants, et quelquefois, la famille elle a tendance à parler à la place du malade. Et donc, je fais sortir la famille en leur disant que dans un quart d'heure, je vais les recevoir, nous allons les recevoir dans le salon des familles. Et donc, au moment où je fais sortir la fille de cette dame, elle me tend un papier et c'était écrit en gros « Surtout ne dites rien, ma mère ne sait pas qu'elle a un cancer ». Donc, je fais un petit clin d'œil de connivence avec la fille sort. Et donc, au moment où je lui pose la question, je lui dis « Madame, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre maladie? Est-ce que vous savez ce que vous avez ?» Et là, elle me répond « J'ai le pancréas qui fait le fou ». Donc, en fait, je pense qu'elle avait très, très bien compris. Elle n'avait pas prononcé le mot. Elle n'en parlait pas avec sa fille, sans doute pour la protéger. Donc, bien sûr, nous avons parlé du pancréas qui faisait le fou, mais nous n'avons pas nommé, bien sûr, le cancer. Donc, cet interrogatoire-là, il est important parce qu'il nous montre où se situe le patient, quel est son état d'esprit. Et la deuxième chose que je lui demande, c'est est-ce qu'il sait pourquoi il est dans ce service et qu'est-ce que les médecins lui ont expliqué sur le service ? Et là, c'est assez intéressant aussi. Il y en a, la plupart nous disent « Ah, on m'a dit qu'ici, je serais très, très, très bien soignée ». Je dis « Merci, attendez un tout petit peu de voir ». avec humour. Et certains me disent, ben, c'est les soins palliatifs. Certains me disent, c'est ma dernière chambre. Voilà. Tout ça nous permet un petit peu d'orienter ensuite notre prise en charge. Donc, bien sûr, je vais l'examiner sur le plan clinique. Et puis, donc, les deux questions principales, c'est la douleur et puis l'angoisse. C'est quand même les deux questions principales. Et puis, une fois que j'aurai mis en route les traitements, je vais recevoir la famille. Et là aussi, c'est assez intéressant de savoir exactement où la famille en est, ce qu'elle a compris de la gravité de l'état. En général, ils ont compris. Dans la chambre, ils ont parfois devant le malade pas tout à fait le même discours, mais avec nous, rassurés, ils se laissent aller à dire ce qu'ils savent. Souvent, c'est assez plein d'émotions. Et ils posent souvent deux questions dès le jour de l'arrivée. Docteur, je ne veux pas qu'il souffre. Donc là, on les rassure sur ce plan-là, puisque c'est vraiment l'objectif de notre prise en charge. Et docteur, il en a pour combien de temps? Donc nous ne répondons jamais à cette question parce que nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien parce que l'expérience nous montre que, quelque part, les choses sont totalement imprévisibles. Il y a des patients qui, dès qu'ils vont se sentir apaisés, soulagés, vont partir relativement rapidement et paisiblement. Et puis d'autres patients, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'ils attendent quelque chose. J'ai notamment le souvenir d'une patiente qui était là depuis quelques semaines et dont l'état s'était vraiment, vraiment dégradé. Et un soir, la nuit, on peut aussi appeler dans le service à n'importe quelle heure, l'infirmière reçoit un coup de fil de son fils qui lui dit « Ben voilà, je voudrais que vous alliez dans la chambre de ma maman et lui dire que je viens d'avoir une petite fille. Elle est née tout à l'heure, elle s'appelle Apolline, elle pèse 3 kilos. » Donc l'infirmière est partie au fond du couloir, la dame était tout au fond du couloir. Elle s'est penchée sur la dame, il était 23h je crois, et elle lui a dit, la dame respirait bien sûr, et elle lui a dit à l'oreille, voilà, votre fils a eu une petite fille, vous êtes de nouveau grand-mère, voilà. La dame n'a pas semblé trop réagir, et puis 2 heures après, au passage suivant, la dame était décédée. Donc, des exemples comme ça, j'en aurai à l'appel. C'est pour ça qu'il est toujours difficile d'établir un pronostic. Ceci étant, on est toujours transparent avec les familles. Dès qu'on sent que là, vraiment, il y a des signes de gravité à quelques heures, on va bien sûr les prévenir, les accompagner, les autoriser à rester 24 heures sur 24, parce que c'est important. Voilà. Ensuite, la prise en charge va se poursuivre tout au long du séjour. Et puis le moment lui aussi très important, c'est le moment du départ. On essaye vraiment toujours d'être dans la chambre quand la personne va mourir, quand on le sent, si on peut le sentir. Et puis on est là ensuite pour soutenir les proches en deuil. Voilà, je crois que je vous ai décrit un petit peu tout ce que l'on fait. C'est la chance que nous avons, c'est que nous sommes bien dotés en moyens humains et que si on peut faire tout ce travail-là, c'est parce qu'on est assez nombreux et qu'on peut prendre le temps. En gros, je dirais que la prise en charge du patient, alors pour nous médecins, c'est peut-être 75% et 25% la prise en charge des proches. Nous parlons beaucoup en équipe, ce qui nous permet quand même de vivre tout ça, de ne pas le garder pour nous. Et puis la parole en équipe est très libre et libère beaucoup. Parce que quelquefois, la charge est un petit peu difficile, même si nous passons de très très bons moments avec les patients, dont j'admire tous les jours le courage, l'humour. Il y en a qui arrivent vraiment à nous faire sourire, voire rire. Il se passe des choses très très fortes. Les liens sont très forts avec les patients. On a l'impression que dans ce condensé de cette phase de la vie, tout prend une authenticité et une intensité très grande. Je vais vous parler maintenant un petit peu dans le temps qui nous reste de l'évolution un petit peu législative, parce qu'on en parle beaucoup. Vous avez dû entendre parler de la première loi Leonetti, en 2005, qui faisait suite à l'affaire Vincent Imbert, Évidemment, il y a deux Vincent avec des noms qui se ressemblent beaucoup. Vincent Humbert, c'était un jeune pompier qui a été victime d'un accident de la voie publique, qui a été réanimé, mais qui est resté tétraplégique, aveugle et muet. Et pour vous la faire court, il avait demandé une autorisation d'euthanasie au président de la République, qui à l'époque était Jacques Chirac, qui l'a lui été refusée. Et c'est sa maman qui, à l'aide d'un médecin, a mis fin à ses jours. Du coup, il y a eu une nécessité de légiférer et la loi Leonetti, elle entérine trois principes fondamentaux qui sont toujours en cours. Le refus de l'acharnement thérapeutique, qu'on a rebaptisé à ce moment-là obstination déraisonnable, le droit d'un patient de refuser, de limiter ou d'arrêter un traitement et la possibilité pour chacun d'exprimer à l'avance ses directives anticipées, c'est-à-dire ses souhaits possibles concernant la prise en charge de la fin de vie. Cette loi Leonetti, elle était très bien, elle donnait une grande latitude aux patients, oui, puisqu'ils pouvaient refuser d'entreprendre un traitement. Elle donnait aussi une grande latitude aux médecins et aux soignants, c'était une loi équilibrée. Et puis après, survenue l'affaire Vincent Lambert, donc je ne vais pas revenir là-dessus, puisqu'on en a tellement parlé dans les journaux. Je n'aime pas employer le mot d'ailleurs d'affaire Vincent Lambert, mais je devrais dire le cas de M. Lambert, où la famille s'est déchirée, le médecin et son épouse voulant arrêter la nutrition et l'hydratation artificielle, alors que Vincent Lambert n'était pas en fin de vie. Donc, le candidat François Hollande avait dit dans son programme présidentiel qu'il voudrait qu'on se penche sur l'assistance médicalisée à la fin de vie. Et c'est ainsi qu'est intervenue la deuxième loi qu'on a appelée Claeys-Leonetti, parce que M. Leonetti a été co-rédacteur de ce projet de loi avec M. Claeys. Donc la loi Claeys-Leonetti, elle est parue le 2 février 2016. Le préambule, c'est que toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Et le premier élément nouveau, c'est que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent un traitement. Donc vous voyez, comme dans la première loi Leonetti, le patient a le droit d'arrêter un traitement. Si la nutrition artificielle et l'hydratation constituent un traitement, vous voyez les conséquences que ça peut avoir. L'autre grande nouveauté de la loi Claeys-Leonetti, c'est l'introduction d'un droit à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Alors, on en a beaucoup, beaucoup parlé. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très, très bien compris. La sédation, c'est un coma pharmacologique, en fait, induit par des médicaments et qui peut avoir des degrés divers. Une sédation, c'est un petit peu, on va dire, un coma artificiel, pour résumer les choses. Ça peut être un coma léger, ça peut être un coma réversible ou ça peut être un coma prolongé tant qu'on prolonge les médicaments. Donc pour obtenir une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, il y a des critères. La loi a précisé trois critères. Il faut que la personne soit atteinte effectivement d'une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme. Le souci, c'est que le court terme, il n'est pas précisé par la loi. C'est pour donner une certaine latitude aux médecins. La deuxième chose, c'est que cette maladie grave et incurable doit entraîner une souffrance réfractaire, c'est-à-dire une souffrance insupportable qui ne peut pas être prise en charge par des traitements actuels en l'état de la science. Et puis, cette sédation peut aussi être mise en route à la demande d'un patient qui dépend d'un traitement vital, par exemple une ventilation assistée, et qui demande l'arrêt de ce traitement. Enfin, la dernière chose, c'est que les directives anticipées s'imposent aux médecins. Autrefois, elles étaient juste consultatives. Maintenant, elles deviennent contraignantes. C'est-à-dire que si un patient exprime dans ses directives anticipées qu'il ne veut pas être réanimé, qu'il ne veut pas être perfusé, qu'il ne veut pas de dialyse, ces directives-là s'imposent aux médecins, sauf dans un cas où elles paraissent manifestement inappropriées. Le Conseil d'État là, vient de rendre un avis complètement contraire à cet article, puisqu'il y avait une personne qui avait demandé à être maintenue en vie dans ses directives anticipées et que les médecins ont obtenu le droit d'arrêter les traitements réanimatoires. Ça, c'est la loi Claeys-Leonetti. La sédation profonde et continue a donc fait son apparition dans l'esprit du grand public. Il arrive des personnes dans notre service qui brandissent ce droit en disant « ben voilà, moi je viens chez vous et je veux une sédation profonde et continue ». Le souci, c'est que bien souvent, les critères ne sont pas là. C'est-à-dire que, bien sûr, le patient est à un pronostic vital engagé à court terme, mais dont on ne sait pas s'il va durer une semaine, deux semaines, trois semaines ou un mois. Ensuite, il ne présente pas de souffrance réfractaire. J'ai ce souvenir d'une dame qui est arrivée dans le service et puis elle était relativement autonome. Elle arrivait à se lever, à aller faire sa toilette toute seule et puis petit à petit son état s'est dégradé et forcément elle a eu besoin d'une assistance pour la toilette et puis ensuite elle est devenue grabataire. Et c'était quelque chose qui lui était insupportable, ce que je peux très bien comprendre. Quand on a été actif toute sa vie, qu'on a tout géré tout seul et qu'on s'est débrouillé, ça devient un moment très très difficile de devenir dépendant des autres. Hein. C'est les autres qui vous font la toilette, c'est les autres qui ont accès à votre intimité. Ça n'est pas facile. Et donc, elle a demandé, elle a fait sa demande de sédation profonde et continue, qu'elle a répétée à plusieurs reprises. Donc, dans ces cas-là, ça déclenche une procédure collégiale, c'est-à-dire que tous les soignants vont se réunir et vont examiner cette demande. Et là, il manquait un critère, c'était la souffrance réfractaire. Parce que cette dame, elle dormait bien, elle n'avait pas de douleur. Et simplement, elle avait, on aurait pu dire, peut-être une souffrance psychologique. C'était essentiellement un désir de mourir. Il ne faut pas confondre la souffrance morale insupportable, réfractaire, avec simplement un désir de mourir. Donc, nous lui avons expliqué qu'elle ne relevait pas de ces critères, que malheureusement, on ne pouvait pas procéder à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Elle a été un petit peu déçue et puis elle s'est endormie paisiblement. Je voudrais dire avant de conclure pour rassurer tous ceux qui nous écoutent, que dans la très très grande majorité des cas, la mort est précédée d'une sédation naturelle. C'est-à-dire que dans les heures qui vont précéder le décès, ou même parfois dans les jours, la personne va progressivement s'endormir dans un état de coma. C'est très connu pour notamment les maladies du foie. C'est toujours, toujours comme cela que ça se passe. Et que le pourcentage des personnes qui meurent vraiment, je dirais, en pleine conscience, c'est-à-dire qui nous parlent la minute d'avant ou qui sont encore en train de faire quelque chose, est exceptionnel. Ça fait 14 ans que je travaille en soins palliatifs et ça se compte sur les doigts de la main. Donc je voudrais rassurer les patients. Quand on accompagne un patient, quand on lui dit que, quand il sent qu'il est entouré, respecté dans sa dignité, les choses se passent très bien et en général, ils s'en vont paisiblement. Voilà, je reste maintenant à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Docteur Alix de Bonnière, nous avons plusieurs questions. Il y a une question de Monique qui a envoyé un SMS et qui écrit ceci. « Merci madame, le glissement entre-t-il dans le cadre de la sédation profonde ?» C'est signé Monique. Monique à qui j'ai répondu de préciser le terme glissement. Est-ce que, peut-être, docteur Alix de Bonnière, voyez-vous de quoi Monique souhaite parler et existe-t-il donc, est-ce que cela rentre dans le cadre de la sédation profonde telle que prévue par la loi ?
Je pense que Monique veut parler du lâcher-prise. C'est-à-dire que quand un patient est soulagé de ses douleurs, qu'il est apaisé, que ses angoisses sont prises en charge, qu'il est entouré, à ce moment-là, souvent, il arrête de lutter. Ça peut être pris pour un syndrome de glissement. C'est simplement un phénomène de lâcher-prise. La personne, elle est prête et elle est un petit peu, on va dire, dans l'acceptation et les choses vont se passer tout doucement. Mais ça n'a rien à voir avec la sédation profonde et continue.
Alors, nous avons reçu un message qui n'a pas été signé. « Bonjour madame, je ne crois plus aux hôpitaux publics à cause d'un mauvais diagnostic sur mon cas. » Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur ou cette auditrice ?
Alors, je ne vais pas critiquer les hôpitaux. Les hôpitaux rencontrent actuellement de grandes, grandes difficultés de recrutement, de démographie médicale. Pour mon cas particulier, nous sommes dans un hôpital privé conventionné, mais nous avons dû fermer la moitié de nos lits du fait de manque d'infirmières, d'impossibilité de recruter des médecins. Et que je pense que l'hôpital public a les soignants ont une charge de travail tellement lourde qu'il manque de temps. Nous avons ce privilège-là de disposer de temps pour s'occuper de nos patients, ce qui n'est vraiment pas le cas partout. Moi, je suis en lien avec des services classiques, avec des internes qui travaillent aussi bien aux urgences que dans les autres services. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Après, malheureusement, l'erreur est humaine et je comprends les conséquences que cela peut avoir.
Alors, dans votre ouvrage, vous avez fait un petit parallèle en prenant des exemples, donc la mort en 1919 et un siècle après, la mort en 2019. Et donc, simplement pour résumer pour les auditeurs, on a le cas de Jeanne qui a un cancer du sein qui n'est pas diagnostiqué tout de suite. En plus, de toute façon, en 1919, on imagine bien que que le diagnostic et les traitements n'étaient pas ce que c'est actuellement. Et Jeanne finit par mourir entourée des siens, avec les voisins qui aident, qui rendent visite. Et on a le cas, un siècle plus tard, de Sophie, également un cancer du sein, contre lequel elle se bat jusqu'au jour où ce cancer se généralise. Et elle choisit de ne pas suivre un nouveau traitement pour rester, on va dire, digne jusqu'au bout. Et elle choisit la sédation profonde. Et vous précisez qu'elle omet deux critères volontairement, donc le pronostic vital engagé à court terme et la souffrance réfractaire.
Oui.
Donc en un siècle, on a vu quand même une différence sur la fin de vie entre des personnes qui sont entourées par tous, y compris par les voisins, et finalement une mort qu'on choisit de vivre seule.
Oui. C'est l'évolution de la société. Hein. D'une part, ce qui était possible au siècle dernier, c'est-à-dire la mort portée par toute la communauté, devient difficile avec l'urbanisation, avec le travail des femmes. Donc ça, c'est une évolution naturelle de la société. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de personnes décèdent à l'hôpital. Nous, on voit bien des personnes qui arrivent dans notre service parce que le conjoint est trop âgé, trop épuisé pour assurer ces derniers jours. Et l'autre évolution de la société, c'est, vous avez dit que Sophie ne se sentait pas digne. Il y a une conception, à mon avis, tout à fait erronée de la dignité actuellement. C'est-à-dire que la dignité, maintenant, elle est confondue avec l'estime de soi, avec l'indépendance, avec la maîtrise. Et j'ai beaucoup de patients qui me disent, mais ma vie n'est plus digne, j'ai perdu ma dignité. Non, il ne faut pas confondre la perte de dignité avec la dépendance. Le respect pour la personne, la dignité, elle est ontologique. Chaque personne reste digne jusqu'au bout, digne d'être aimée, digne d'être regardée, digne d'être soignée. Voilà. Et ça, c'est une évolution de la société qui joue beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris le cas un petit peu de Sophie. Le désir de contrôle, le désir de maîtrise de la mort, dans notre société, c'est devenu quand même, un principe.
Alors, vous nous avez expliqué comment se passe l'accueil d'un patient dans un service de soins palliatifs, donc avec tout d'abord le dialogue avec le patient seul et ensuite vous voyez la famille. Est-ce que il y a un dialogue ou une manière de procéder un petit peu différente lorsque justement il y a au sein de cette famille de jeunes enfants?
Oui, alors effectivement, nous sommes formés à recevoir les enfants. Donc nous proposons toujours aux familles, lorsqu'elles viennent avec des jeunes enfants, de faire d'abord un détour par le poste de soins pour que éventuellement on réponde aux questions des enfants. C'est difficile pour des parents de répondre à certaines questions de leurs enfants. Après, il y a des parents qui ne veulent pas, qui veulent gérer les choses entièrement, et ça, on respecte ça tout à fait. Et sinon, on répond aux questions des enfants. Ce qui m'a beaucoup aidée une fois, par exemple, c'est qu'on avait une patiente qui avait une petite fille de 5 ans. Et ma collègue, elle est venue un jour voir sa maman, et ma collègue l'a reçue dans le salon. Et la petite fille a posé cette question, elle lui a dit, moi je n'étais pas là, elle lui a dit, est-ce que ma maman va mourir? Et ma collègue a eu le courage de lui répondre avec beaucoup de douceur, oui, de lui expliquer certaines choses. C'est fait que le jour où sa maman est morte, c'est moi qui étais de garde, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Ça a été bouleversant, bien sûr, ça a été un moment très, très difficile, mais le fait que ma collègue avait eu le courage d'en parler, ce que le père ne pouvait pas faire, et on le comprend bien, a beaucoup amélioré les choses. Les enfants peuvent venir voir les patients, quel que soit leur âge.
Donc les enfants peuvent entendre le fait que leur maman ou leur papa va mourir.
Non seulement ils le peuvent, mais je pense qu'il le faut. Je pense qu'il le faut. On a eu là très récemment l'exemple d'un jeune homme. Sa mère l'avait appelé en disant, tu sais, je suis malade, j'aimerais bien que tu viennes me voir à l'hôpital. Il a une vingtaine d'années, hein, voilà. Et sur le coup, il a refusé parce que, je sais pas, il se sentait peut-être pas la force à ce moment-là. Et puis après, sa mère du coup ne lui a pas donné, n'a pas insisté. Il n'a pas perçu la gravité de son état. Ce qui fait qu'il a été prévenu de la gravité de l'état de sa maman la veille de son décès. Donc bien sûr, il est arrivé à toute vitesse, il l'a veillé jusqu'à la fin, mais c'est extrêmement difficile pour lui. Il est maintenant rongé par la culpabilité, effondré, tout ça parce que, bon, c'est un jeune adulte, hein, mais c'est valable aussi pour les enfants. Je pense qu'il faut essayer de tenir au courant. Et justement, nous, on est formés, on a les mots, on connaît les mots qu'il faut poser quand les enfants acceptent. Et que, alors, les enfants, ça passe par l'acceptation des parents. Souvent, les adolescents et les jeunes adultes nous évitent. Mais bon, voilà.
Eh bien, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Merci beaucoup, docteur Alix de Bonnière. Est-ce que vous avez peut-être un message pour les auditeurs de Radio Maria pour conclure cette émission?
Oui, je voudrais, tant que faire se peut, dédramatiser la fin de vie. L'essentiel, c'est la présence, l'accompagnement, l'amour, que la personne sente qu'elle n'est pas seule. Ça pose un problème pour les personnes solitaires. Mais voilà, c'est le but de mon intervention, c'est de rassurer et de dire que voilà, il est possible quand même de mourir paisiblement et oublier un petit peu ce terme du mal mourir en France. Voilà. Et j'espère que les soins palliatifs se développeront pour pouvoir mener à bien cet objectif. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Alix de Bonnière. À très bientôt. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, nous étions en émission avec le docteur Alix de Bonnière, auteur du livre La fin de vie apaisée, la sédation profonde et continue en question, paru aux éditions Teki. Et le docteur Alix de Bonnière est également auteur de l'ouvrage Consentir à mourir aux éditions du Toucan. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr, rubrique sociale.